C'est une émission spéciale que nous vous proposons dans cette heure de pointe avec des lycéens du lycée Peyramale Saint-Joseph à Lourdes. Bonjour Marie Charignon.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous. C'est la deuxième fois en vidéo. Vous aviez fait cette expérience il y a quelques années aussi en radio purement.
Oui, alors oui, d'ailleurs, l'expérience qu'on avait aussi menée l'année dernière.
Voilà, et là on était en vidéo. C'est le prix lycéen du livre de philosophie. Vous êtes professeur de philosophie dans cet établissement. Nous avons quelques élèves qui vont passer. Trois livres sont en compétition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots, c'est quoi le prix lycéen du livre?
Alors, c'est un prix qui est décerné chaque année, dont le vote se positionne au mois de mai, à la fin du mois de mai, le 31 mai. Et donc, nos élèves, en fait, participent à un prix qui est lui-même porté par l'Association des professeurs de philosophie au niveau national. Donc, chaque année, un peu comme le Festival de Cannes, il y a d'ailleurs, c'est la période, il y a trois livres en compétition.
Trois livres, il y en a un, voilà, le second.
Alors, je vais lire les titres, hein.
Oui.
Le premier livre, c'est Contre la culture du clash, débat d'idées et démocratie d'Antoine Vuille. Le second, c'est Kant et le sens de l'existence, cinq apparitions du ciel étoilé de Jean-Marc Mouly.
Et puis
Et
le dernier.
enfin, Une philosophie des sanglots d'Estelle Ferrazé. Alors, on peut d'ailleurs voir qu'il y a une autrice, parmi ces trois sélectionnées, ce qui est une bonne chose. Ces trois livres sont contemporains, c'est pas des livres classiques, et donc qui comportent en plus beaucoup d'éléments qui peuvent coiffer à la fois le programme de philosophie générale, puisqu'ils vont passer le bac dans un mois, et à la fois le programme de la spécialité HLP, donc humanité, littérature et philosophie, qui fait partie du nouveau bac et qui ouvre à des métiers. Notamment de communication, de médias, de sciences politiques.
D'accord. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour faire cette émission où, voilà, eh bien, on a un premier groupe qui est là, où on a Laura, bonjour.
Bonjour.
On a Augustin et puis
Bonjour.
on a Lucas.
Bonjour.
Et vous allez nous parler donc de ce premier livre, Contre la culture du clash, débat d'idées et démocratie d'Antoine Vuille, collection La Part des choses, à la maison d'édition, pardon, Elliott, voilà, que je présente. Qui c'est qui débute donc sur contre la culture du clash, débat d'idées et démocratie. Est-ce que la démocratie serait en danger et le débat d'idées aussi?
Dans notre génération, aujourd'hui, le débat ainsi que la démocratie est totalement en danger. Ce livre a été donc publié en 2024 par Antoine Vuille, qui donc propose une réflexion sur la manière dont les débats sont devenus aujourd'hui agressifs. Cet essai s'inscrit donc dans un contexte où les réseaux sociaux permettent donc une place, enfin, prennent donc une place importante. L'auteur ici est donc un philosophe qui s'intéresse à la liberté d'expression et à comment on construit donc nos idées personnelles. Cette œuvre cherche donc à redonner de l'importance au dialogue ainsi qu'à la réflexion. Le problème principal du livre ici, c'est que le débat repose aujourd'hui sur des conflits. Antoine Vuille veut donc montrer que il veut empêcher que le débat ne soit donc plus réfléchi et soit juste du clash. Dans un essai, il fait donc un constat de cette situation où il explique les causes, donc par exemple avec les réseaux sociaux ainsi que les informations aux médias. Et donc, il va donc proposer une solution. Le but ici, c'est donc d'avoir un débat plus respectueux ainsi que constructif.
L'impression que les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un accélérateur de clash.
Oui, parce que les réseaux sociaux, on peut répondre facilement ainsi que rapidement. Donc, c'est plus posé sur des avis personnels au lieu de comprendre l'autre. Vu que c'est rapide, on ne s'intéresse pas forcément à ce que dit l'autre, mais plutôt à avoir raison aujourd'hui.
Qui dit rapidité dit peut-être aussi on répond sous l'émotion.
Oui,
Mais évidemment, les réseaux sociaux, ils sont connus pour ça. De si on répond avec instantanéité, on n'a pas les personnes en face,
des fois anonyme.
des fois anonyme, évidemment. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de procès hein, qui sont faits pour ça, pour des abus comme ça sur les réseaux sociaux. Et c'est ça le problème, c'est qu'on se sent tout permis sur les réseaux sociaux et on s'oppose à l'adversaire, mais sans écouter. Un seul avis de cet adversaire. Et donc voilà, ça mène au clash. C'est une opposition sans débat ici.
Est-ce que l'auteur, vous avez parlé tout à l'heure de ce fameux droit à la parole, de la liberté d'expression, mais
Oui.
jusqu'à où elle est? C'est-à-dire, est-ce qu'il pose des limites dans la liberté d'expression? Est-ce qu'insulter quelqu'un ou raconter des choses qui sont fausses, est-ce qu'on est toujours dans la liberté d'expression?
Alors justement, il montre dans cette œuvre que la liberté d'expression aujourd'hui, elle est trop utilisée et banalisée en quelque sorte. Les gens vont super loin dans leurs propos et justement, il aimerait la stabiliser et la rendre moins violente.
Est-ce qu'il faudrait revoir quelque part la loi, une loi qui permettrait de pouvoir faire de la modération des réseaux sociaux? Est-ce qu'on en parle de ça dans ce livre ou pas?
Ben, les réseaux sociaux dans ce livre, ils sont abordés hein, largement, mais lui, ce qui centre surtout, c'est sur les débats, plateau, radio, télé, enfin, et vraiment, il veut vraiment dire que c'est lorsqu'on est même en face de l'adversaire, d'un opposant tel qu'il soit, qu'il faut qu'on réussisse à dialoguer, tout simplement, et à écouter ses idées.
Alors, je me permets d'intervenir. Dans le cours de philosophie générale, on a, ou même dans les pouvoirs de la parole, là, qu'on a vu dans la spécialité HLP, est-ce que vous vous rappelez, on avait un petit peu travaillé sur ça? Finalement, c'est un vieux problème. Je crois que c'est un vieux problème. Vous avez parlé de dialogue. Et bon, le dialogue est censé aller vers la vérité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, ce dialogue qui parfois se transforme en joute oratoire, est-ce que ça vous rappelle des choses dans votre cours, et notamment un auteur en particulier, Lucas, ça vous dit quelque chose? Quelqu'un qui aurait dit finalement l'art d'avoir toujours raison, ça vous dit quelque chose?
C'est pas Platon peut-être?
Alors, je ne sais
C'est
pas.
Schopenhauer.
Oui, Schopenhauer.
Et alors, vous vous rappelez ce qu'il proposait justement par rapport à ça?
Alors,
Est-ce qu'il proposait des techniques de combat? Luna?
si, je ne suis pas sûre, mais je crois que justement, il cherchait à pas contrer l'autre, à justement comprendre l'idée de l'autre et d'en faire un peu à lui sa parole aussi, enfin, d'utiliser
Ça, c'est
l'argument de
Platon,
l'autre.
c'est peut-être
Ah.
Socrate. Mais Schopenhauer, qu'est-ce qu'il vous a donné comme type d'outil? Vous vous rappelez pas? Le livre, ce qu'il y avait dedans, il y en avait 38. Il y avait 38 stratagèmes. Vous vous rappelez de ça? 38 stratagèmes pour abattre l'autre, dont l'insulte. Vous vous rappelez? Donc
Oui.
c'est un vieux problème. Et alors est-ce que dans ce livre, par rapport à cette violence de la parole qui est en fait possible dans la parole elle-même, est-ce que, par exemple, Luna, vous avez trouvé une solution? Qu'est-ce qu'il donne, l'auteur, dans le livre? Vous avez...
Ben, il va donc donner le fait de. Il va donc par exemple parler du forum mental, qui est donc le fait de réfléchir librement à toutes les idées, même comme celles qui nous dérangent ou avec celles où on n'est pas d'accord. Et d'accepter un peu toutes les opinions d'abord au lieu de contrer l'autre en premier.
Donc le forum mental, il en parle dans le livre. C'est une expression du
Oui,
livre.
c'est une
Et ça
expression
vous a
qu'il
plu?
utilise. Oui, parce que ça montre donc qu'il faut garder une ouverture d'esprit ainsi qu'une réflexion avant d'aller combattre l'autre en quelque sorte et de directement contrer ce qu'il dit.
Est-ce que, puisque vous avez parlé de cette position de l'auteur, il y a les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'entre vous, est-ce qu'avec vos parents, est-ce qu'il y a aussi ce clash? Est-ce que les conseils qui sont dits dans ce livre, on peut aussi les utiliser dans sa vie quotidienne?
Oui.
Évidemment, ça devrait presque être une morale universelle pour tout le monde. Si tout le monde suivait un peu ce qui est dit dans ce livre, je pense qu'on serait déjà sur une société, une démocratie bien plus respectueuse. Et où l'écoute serait première.
Dans le prix lycéen, il est marqué que les élèves lisent trop peu ou trop vite. Est-ce que ce livre, vous le conseilleriez à vos collègues, à vos amis, pour qu'ils puissent se construire ou avoir au moins quelques outils, quelques bagages pour rentrer dans la vie active et pouvoir pratiquer ce qu'il met ou ce qu'il démontre dans cette violence et dans ces clashs?
Et complètement, parce que ce
Est-ce qu'il
livre.
est
Oui, parce que.
abordable d'ailleurs? Est-ce qu'il est facile à lire?
Oui.
Oui. Oui.
Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de notions compliquées, et même si elles sont assez compliquées en bas de chaque page, il y a une définition de chaque mot. Donc, il est vraiment accessible à tout le monde. Et moi, personnellement, je le conseillerais parce que il permet donc de créer un esprit ouvert et de ne plus être forcément renfermé avec nos propres idées à nous et s'ouvrir plutôt aux idées des autres.
Ça vous a donné aussi peut-être l'idée de voir si d'autres auteurs ou d'autres personnes avaient écrit sur ces sujets qui va devenir vraiment un sujet très important, puisque, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, tout le monde a une idée sur tout et personne ne s'écoute.
Ben oui, ce livre est super intéressant pour ça, surtout parce qu'il apporte quelques solutions en fait. Il nous dit, il se contente pas de faire une liste de faits de ce qui est, mais voilà, il propose des solutions et aussi il nous apprend, enfin voilà, à certaines choses, à certaines attitudes à condamner, enfin voilà.
Est-ce que peut-être pour, puisque évidemment le but de l'émission c'est vous êtes en charge du livre, alors évidemment vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Est-ce qu'il y en a un, puisque à la fin de l'émission on devra s'entendre et voter pour l'un des trois, est-ce qu'il y en a un qui voudrait lire un tout petit passage qui lui aurait plu ou déplu? Est-ce qu'il y en a un qui veut le lire? Lucas, vous avez quelque chose?
Oui. Alors, j'ai un passage du livre qui, du coup, c'est une discussion entre des interlocuteurs qui cherchent à évaluer la pertinence de leur point de vue en formulant des arguments, qui est un extrait qui, pour moi, du coup, montre que Ville cherche à expliquer que débattre ne consiste pas à gagner, mais à tester la solidité de ses idées. Donc, le débat devient une enquête commune plutôt qu'un combat, du coup. C'est un petit
Donc, peut-être une dialectique, comme disait
Voilà.
Socrate, hein, le fameux Socrate qui passait son temps à discuter. Et vous en savez quelques. Est-ce que vous savez des choses sur cet auteur, Lucas? Enfin, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ou est-ce qu'il c'est un professeur de philosophie?
Non, enfin, j'ai fait des recherches un peu, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un auteur qui est jeune. Donc, je pense que, au vu de la façon dont il écrit, justement, ça peut aussi faire accrocher du coup des personnes qui sont pas forcément habituées à lire, donc qui soient plutôt jeunes. Il y a aussi un aspect assez moderne à son écriture, du coup, vu qu'il parle de réseaux sociaux, etc. Que pour revenir au sujet d'avant, on parlait de si on conseillerait ce livre, moi personnellement je le conseillerais par rapport à ça, oui.
Bon, donc tous les trois, vous êtes unanimes, il n'y en a pas un qui pourrait desservir le livre
Non.
finalement. Il n'y a pas de critique à faire sur ce livre.
Non. Il n'y a pas quelque chose qui vous a peut-être qui vous a dit bon non, là c'est il va trop loin ou c'est facile à dire, plus dur à faire.
Alors oui,
Oui.
parfois il utilise des exemples qui sont plus durs à faire que. Oui, plus dur à dire. Plus
Plus
dur.
facile à
Oui,
dire, oui.
plus facile à dire qu'à faire.
Exemple,
Mais.
peut-être, ça vous vient pas?
Là,
Le
non.
forum mental, le fameux
Ah oui, le
forum
forum
mental.
mental, être ouvert d'esprit à toutes les opinions que chacun utilise, c'est pas forcément parfois facile parce que on est parfois influencé par l'idée de nos parents ou de nos amis. Donc quand on se retrouve par exemple à quelqu'un d'étranger qui nous propose ses idées à lui, on peut parfois pas être vraiment d'accord parce qu'on est influencé parfois aussi.
Est-ce qu'il parle aussi quelque part de la culture? On peut parler de choses lorsque peut-être on a un petit bagage culturel où on sait de quoi on parle. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut parler, tout le monde a une idée sur tout, mais des fois on a des idées, comme vous l'avez dit, parce qu'elles viennent du voisin, parce qu'on l'a entendu à la télé, parce que voilà, c'est pas ses propres idées, où on n'a pas ce bagage culturel qui fait que on arrive à venir en disant, attendez, de quoi on parle, attendez, je vous expliquer, la vérité, c'est pas ça, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est des choses, vous, qui reviennent dans le livre?
Ben oui, ça, il en parle un petit peu à un moment dans un exemple concret. Il nous dit que, enfin, il propose une réflexion sur en fait le relativisme. Donc en fait, il explique que on pourrait imaginer une démocratie d'opinion sur une idée fondée sur une idée que toutes les idées se valent. Et dans cette logique, du coup, il deviendrait presque inutile de débattre. Et il parle même de démocratie de l'instantanéité. Une démocratie, par exemple, lui, il imagine le scénario où pour débattre de choses qui ne sont plus vraiment des débats ou pour voter pour des choses, on ferait sur le téléphone et on ferait des votes instantanés. Et il dit, lui, bien que c'est voilà,
Une sorte
un
de
danger.
référendum
Voilà, c'est ça, mais permanent. Sauf que, du
permanent.
coup, comme vous dites, voilà, on prend les avis du voisin et puis on recopie. Donc, c'est pas. Pour lui, ça serait un vrai danger. Et il imagine une société un peu dystopique où ça pourrait arriver. Donc voilà.
On s'aperçoit aujourd'hui que dans les différents, en France, c'est toujours particulièrement, oui, je crois que c'est peut-être dans d'autres pays, lorsqu'on donne la parole aux gens, hein, pour des élections par exemple, on s'aperçoit que beaucoup de gens ne vont plus voter. Est-ce que là-dedans, il parle de... En fait, là, voilà, on donne la parole, on a le choix, on a un choix, on a une... Et les gens n'y vont plus. Est-ce qu'il parle de ça? Est-ce que la démocratie est en danger? On lui dit, est-ce que ça peut être aussi ça? Non, il n'en parle pas,
Il
peut-être.
parle pas vraiment de ça, mais en tout cas, oui, pour lui, la démocratie, si bien on continue dans ce débat qui n'en est pas un, oui, elle est fortement en danger et elle pourrait. Et pour lui, il faut absolument trouver des alternatives ou alors changer toute notre vision du dialogue.
Et donc, il y a du travail à faire. Hein.
Il y a du travail.
Il y a du travail à faire et surtout voir comment on peut modérer les réseaux sociaux qui sont l'instantanéité, comme vous l'avez dit. Et puis surtout, le fait qu'on parle sous le coup de l'émotion. Hein. Si on a une idée qu'on trouve ça scandaleux, on réagit et on écrit, puis après on réfléchit après.
Oui, voilà.
C'est un petit peu ça?
Oui.
Mais il appelle ça, lui, une tyrannie d'humeur populaire. En fait, c'est vraiment lorsque l'opinion, lorsque les émotions, elles dictent nos actions. Donc, en fait, c'est exactement ça.
Après, on pourrait peut-être imposer des zones de silence, c'est-à-dire qu'on pourrait s'amuser à dire, ben voilà, à chaque question posée, on s'oblige 30 secondes de réflexion. Ceci dit, il y a quand même des choses notamment dans toutes les théories du commun, où en fait, certains pensent que, par exemple, pour voter pour un candidat, faudrait obliger, enfin obliger, on ne peut pas obliger, mais en tout cas, faudrait obtenir un vote pour 5 personnes. C'est-à-dire 5 personnes discutent entre eux de tout un tas de choses concernant la politique à venir et ils ne donnent qu'un vote pour les 5 personnes. Ce qui fait que ça éviterait peut-être ce mouvement d'humeur ou cette individualité dans le choix et ça permettrait finalement de au moins mettre 5 personnes en commun. Et du coup, à l'image globale, ça donnerait quelque chose de plus intéressant en termes de vote. Et pas un vote, une personne, mais un vote, plusieurs personnes. Alors après, le problème, c'est qu'il faut que les personnes soient relativement distinctes pour que ça fonctionne, parce que si elles sont toutes d'accord. Mais voilà, il y a quand même des choses qui émergent.
Voilà pour donc ce livre Contre la culture du clash, débat d'idées et démocratie d'Antoine Vuille. Il y a 3 livres. Celui-là, il vous a particulièrement plu?
Oui,
Ouais.
apparemment, c'est
De ce
l'unanimité
qu'on
pour ce
apprend.
groupe. Pour ce groupe.
Pour ce groupe, donc, unanimité, c'est pas un livre qui a été ennuyeux et vous avez appris des choses.
Oui.
Ouais.
On verra lequel gagnera.
Voilà. Merci beaucoup. On accueille le deuxième groupe pour le deuxième livre et on a le plaisir d'avoir Muriel. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Et puis Ethan.
Bonjour.
Ça va?
Bien, et vous?
Pas trop stressé?
Un
Un petit
peu,
peu
mais ça
stressé?
va.
Alors là, on a un livre qui, par rapport au premier, qui est un petit peu plus lourd. Hein. 5 apparitions du ciel étoilé, Kant et le sens de l'existence, rien que ça, de Jean-Marc Mouilly, c'est ça, Mouilly?
Oui, je
Oui.
pense.
Oui. Paru donc sur Les Belles Lettres, et c'est un essai. Alors, peut-être 2 mots sur l'auteur?
Oui, Jean-Marc Mouilly est un maître de conférences à l'université d'Angers et il est d'ailleurs agrégé et docteur en philosophie. Et l'auteur traite souvent de thèmes enfin, il traite particulièrement de l'éthique et de Sartre, souvent aussi, j'ai vu. Et voilà, aujourd'hui, le livre qu'on vous présente, c'est le dernier qu'il a écrit.
Il est dur parce que vous avez parlé de maître de conférence, de docteur, donc ça veut dire que c'est quelqu'un de très haut placé. Est-ce qu'il est dur à lire ce livre?
Je réponds.
Oui.
Ah ouais. Personnellement, quand je l'ai lu, j'ai pas compris grand-chose, mais c'est en fait, j'avais l'impression comme si c'était une grande disserte, donc c'était très dur à digérer, vraiment très dur. Donc
C'était un exercice pour vous?
ah oui.
Pas une torture, quand même.
Un peu. Mais c'est ouais, c'est raffiné, c'est un bon livre, je pense quand même.
Mais c'est-à-dire qu'il est assez dense et je pense que pour le comprendre, faut aussi faut connaître Kant au départ. Donc si on ne le connaît pas, c'est un peu plus compliqué, il faut l'avoir lu. Et oui, comme j'ai dit, c'est dense et très complexe, complet plutôt. En fait.
Vous avez pris cette discipline, hein, donc cette spécialité, hein, de la philosophie. Est-ce que là, vous avez été nourri?
Ah oui, totalement.
Alors, on peut quand même dire, c'est vrai qu'Emmanuel Kant, c'est un philosophe allemand qui a écrit quand même des livres relativement complexe. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui fait un essai sur Emmanuel Kant, ça peut aussi être complexe, mais ceci dit, très utile pour la philosophie générale aussi. Je vous rappelle que vous passez le bac bientôt, notamment sur l'éthique, la morale, le devoir moral. Donc, alors, moi, je tiens à dire quand même qu'on a, parmi les trois livres que nous avons lus cette année, bizarrement, nous en avons perdu un et on ne le retrouve plus. Et c'est celui-là. Heureusement, il nous en reste un sur les deux. Ceci dit, moi, je n'ai pas lu les livres. Je tiens à dire que je vous enseigne la philosophie, mais mon credo, c'est de ne pas les lire pour me... Voilà, je veux que vous me donniez envie de lire les livres. Bon, apparemment, Ethan me dit que c'est complexe.
Ah oui.
Peut-être 5 apparitions. Pourquoi 5 apparitions dans le titre? Est-ce qu'il y a une explication dans le livre?
Ah oui, parce que l'auteur revient sur chaque apparition de celle étoilée de Kant. C'est les apparitions, je peux donner toutes les dates. Il y a celle de 1755, 1764... 1788, 1790, c'est celle de 1803 qui est la dernière de Kant. Et il me semble que c'est dans plusieurs œuvres différentes Kant il revient sur cette notion de ciel étoilé. Et voilà, dans chaque partie du livre, il va développer, il va revenir sur ces 5 apparitions.
Et cette théorie du ciel étoilé en deux mots J'espère que le prêtre est un piège.
La théorie du ciel étoilé, c'est pas vraiment la théorie du ciel étoilé, c'est plutôt ce qui emplit le cœur, selon Kant, c'est le ciel étoilé et la loi morale en nous.
Quel est le rapport entre le ciel étoilé et la morale?
Le ciel étoilé et la morale, c'est-à-dire que quand on observe le ciel, l'homme se sent à la fois grand, parce que ça le fascine. Mais en fait, en voyant cette grandeur, ça le rappelle qu'il est petit dans l'univers et qu'en fait, c'est un peu un paradoxe en termes de grandeur et de petitesse de l'homme.
C'est bien ça. Ouais. D'ailleurs, il n'y avait pas une notion de sublime dans le livre?
Si, il y avait une notion de sublime. Et d'ailleurs, je peux vous lire un passage que j'ai sélectionné sur le sublime.
Ah ben, alors, de tout cas, est-ce que vous pouvez dire la page du livre?
C'est la page 118 et le passage, je vous le lis. Reste la difficulté liée à l'objet, on l'a dit, il n'est pas proprement sublime lui-même, seul le sentiment l'est. Que d'autres hommes partagent l'expérience bouleversante de la contemplation du ciel étoilé, je ne peux le présupposer. Cela dépend d'eux, de leur regard et de leur sensibilité, au moins autant que du phénomène lui-même. Le sommet, pour l'alpiniste, qui est en fait l'objectif d'une conquête, n'est pas le sommet que peint Caspar David Friedrich dans Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages, pardon. La qualité des objets varie avec la visée qui s'y apporte. Alors, dans ce passage, l'auteur revient sur la notion de sublime. Il l'avait évoqué plus tôt. Pour Kant, le ciel est sublime. Et qu'est-ce que le sublime? Je vais beaucoup répéter le mot sublime. Mais c'est quelque chose qui nous fascine et qui, à la fois, nous fait peur. C'est quelque chose d'impressionnant, de grandiose, comme le ciel étoilé. Il nous fascine et, à la fois, il nous fait peur. Et le sublime que nous dans cet extrait, l'auteur dit quelque chose que je trouve vrai, c'est que le sublime que nous éprouvons face à quelque chose qui nous dépasse et qui nous impressionne, il dépend ce sentiment dépend des individus, car un objet peut être sublime pour un homme, mais il ne peut ne pas l'être pour un autre. Le ciel étoilé, par exemple, on peut le trouver sublime. Peut-être que Ethan peut le trouver sublime, mais que moi, à l'inverse, je ne vais pas y voir quelque chose de grandiose.
Est-ce qu'il y a la notion aussi de l'état d'esprit où le jour où on regarde, si demain on a un ciel étoilé magnifique, mais qu'on est en deuil, on ne le voit pas aussi joli que si on vient d'apprendre une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a cette notion aussi dans le sublime? Le sublime, il peut être beau, il est tout le temps là, c'est le même, mais suivant dans son état.
Oui, moi je trouve que même dans la définition même du sublime, je trouve une chose sublime, c'est quelque chose où tellement qu'elle est complexe, tout le monde pourrait l'interpréter d'une façon différente. Et ça, je trouve que vraiment, c'est ce qui permet de nous différencier de l'art, de l'IA, pardon, dans l'art. Et c'est pour ça, je pense que au fur et à mesure, l'IA va pas prendre la mesure les artistes. J'ai un peu, mais oui, c'est ça.
Il vous a donné à penser finalement ce livre, même s'il était complexe, mais c'est le but en fait. Peu importe.
Oui, il est assez intéressant. C'est juste, En fait, il rentre dans notre inconscient un peu. C'est pas mal. Ouais, c'est un peu dur, mais...
Il est dur, mais il nourrit.
Oui, il nourrit quand même, mais c'est ouais, c'est juste que faut s'y faire, hein, comme on dit.
Oui, il est dur, faut s'y accrocher, mais il y a beaucoup de connaissances très importantes qui sont exploitées dans le livre.
Est-ce qu'il y a certaines idées, même si ce n'est pas toutes, que vous pourriez utiliser, par exemple, le jour du bac? Une idée.
Oui, il revient dans le livre sur l'impératif catégorique qu'on voit en philo général. Même sur, il parle également de Sartre dans le livre. Il dit l'existence précède l'essence, et en fait, il lit l'impératif catégorique à la phrase de Sartre, l'existence précède l'essence.
C'est pas évident parce que là, on est sur deux philosophes de deux époques différentes. Mais ceci dit, la question du sublime, franchement, l'utiliser parce que elle permet de, justement, de faire l'expérience d'éprouver la petitesse et la grandeur de l'homme, mais aussi son humilité. Donc en fait. Le sentiment de sublime, c'est quelque chose, vous l'avez très bien dit, qui à la fois me fascine et en même temps c'est l'effroi. C'est comme quand par exemple on regarde, c'est très télévisuel d'ailleurs, c'est comme quand on regarde par exemple une inondation absolument incroyable qui emporte tout sur son passage, mais tout en étant à l'abri. C'est ça un petit peu aussi, le sublime. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce delta entre la petitesse et la grandeur de l'homme.
Oui, le sublime, ça nous transporte, comme vous l'avez dit.
Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce livre qui est un peu construit aussi demain entre vous, entre vos amis? Qu'est-ce que vous retiendrez de ce livre?
Tu veux le...
Toi d'abord, je te laisse.
Mais comme je pense que je retiendrai la notion de sublime.
Du sublime.
Parce que pour moi, c'est la plus importante du livre. Et d'ailleurs, il disait une autre phrase dans le livre que j'avais bien aimé, c'est « Ce n'est pas la nuit qui est sublime, mais le sentiment qu'elle évoque. » Et ça revient un peu à ce que j'ai dit plus tôt. C'est pas forcément l'objet en lui-même qui est sublime, mais c'est vraiment en fonction de la sensibilité de chacun, de la réception de chacun. Et c'est le regard qui est porté sur un objet qui fait qu'on ressent le sublime.
On peut aller jusqu'à la personne, hein, trouver quelqu'un sublime. Vous êtes jeune, vous allez rentrer dans votre vie d'adulte. On peut peut-être, effectivement, vous pouvez trouver un garçon joli et votre ami pas du tout, ou l'inverse. Est-ce qu'il y a ce côté sublime et il y a ce côté pourquoi on trouve quelque chose de beau? Ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être
une situation.
Situation, oui.
Une situation, je pense que ça peut être sublime parce que ça peut à la fois être fascinant et craint.
Celui qui aime le foot, par exemple, il va être sublime si l'équipe de France va gagner la prochaine Coupe du Monde. Et celui qui n'aime pas le foot, il s'en fiche complètement.
Oui, voilà, le sublime dépend, il dépend vraiment de la réception de chacun et du regard porté. Et voilà.
Alors, Ethan,
est-ce qu'on peut...
Est-ce qu'on vote, Ethan, est-ce qu'on vote pour ce livre?
Ah non.
Il faut argumenter.
Ah oui.
Alors, quels sont vos arguments, finalement?
Mes arguments sont que je trouve que le livre... Il est vraiment dans sa manière d'écriture déjà. Ça me fait penser, comme j'avais dit, une grosse dissertation. Donc c'est pour ça m'évoque déjà des mauvais souvenirs. Et en plus, c'est vraiment des... Il y a toujours... En plus, outre ça, je trouve qu'il y a quand même des concepts avec d'autres arts qui, en fait, il y a besoin de beaucoup de culture pour lire ce livre. Et il fait beaucoup d'évocations. Ça fait... Si vraiment, je pense qu'on devrait analyser ce livre, il faudrait revenir sur des éléments. Ah voilà, c'est... C'est un travail.
Vous pensez qu'il est peut-être pas fait pour des lycéens?
Ah, pas du tout, je pense.
Alors, ceci dit, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce livre, il est écrit par un maître de conférence, donc des gens qui enseignent à l'université. Alors, désolé de vous dire, mais l'année prochaine, vous allez avoir des gens qui font de la recherche, qui écrivent des livres, et des livres qui, pour les comprendre, on doit lire d'autres livres, et on doit lire encore d'autres livres. Et en fait, ça, c'est la démarche, justement, de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'en fait, le professeur, il va vous donner, par exemple, une grande dissertation, comme ça, et puis vous, derrière, chez vous, il va falloir aller chercher comme le livre qui se cache derrière le livre et la porte qui se cache derrière la porte. Et c'est pour ça que, à mon avis, c'est plutôt une bonne indication que vous ayez compris, justement, la structure de la lecture. C'est une lecture un peu en poupée russe. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est ça, après.
Mais vous ne voterez quand même pas pour lui.
Ah non, non.
Et vous
Non, je pense pas que je voterai pour lui. Après, il est quand même intéressant, mais
trop technique.
Très technique. Et les autres livres aussi étaient très intéressant, donc il y a un peu de concurrence, beaucoup même.
Est-ce que vous avez lu l'entièreté des trois livres, Muriel?
Non, pas l'entièreté des trois livres.
Quel est l'autre livre que vous avez lu des trois?
L'autre livre des trois, j'ai lu La philosophie des sanglots. Oui, le livre était parlant, je ne l'ai pas lu en entier non plus, mais il était plus simple à comprendre que celui sur Kant.
Bon, on verra, c'est le suivant.
Très bien, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Puis on se retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour le moment du vote. Alors, on a bien compris que 5 apparitions du ciel étoilé, il n'a pas votre faveur. Et je ne sais pas si vos collègues, vos camarades qui sont derrière la vitre, qui vous écoutent, qui vous regardent, auront le même sentiment. On verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vous rappelle qu'on est en train de terminer tranquillement ce prix lycéen du livre de philosophie. Allez, pour le dernier groupe, nous accueillons Sophia. Bonjour Sophia.
Bonjour.
Et puis nous accueillons aussi Dina.
Bonjour.
Bonjour. Dernier livre d'Estelle Ferrares, c'est ça?
Oui.
Une philosophie des sanglots. Vous n'avez pas envie de pleurer là? Ça va. livre donc qui est-ce que vous pouvez nous parler d'ailleurs de l'auteur de ce livre et qu'est-ce qu'il raconte? On parle de sanglots, on parle de pleurs.
Estelle Ferrares, c'est une professeure à l'université de Picardie Jules Verne et aussi une chercheuse. Elle pratique la philosophie morale et politique, et plus précisément la philosophie féministe. Dans son livre, elle va interroger la place qu'ont les émotions, plus précisément celle des sanglots, qui sont vécues à travers les femmes. Et elle va essayer de faire passer cela non comme une faiblesse, mais plutôt comme une expérience qu'il faut prendre comme une force.
D'accord. Vous avez appris des choses particulières sur ce livre qui fait quand même plus de 250 pages.
Oui, car elle utilise énormément de références et d'exemples aussi. Donc, par exemple, dans la première partie qui s'appelle Impuissance, elle va parler du genre et elle dit que les sanglots vécus par les femmes qui ont des sanglots dérangent la société et la société essaie de les cacher et de les enfouir. Par exemple, en Grèce, elle dit que les femmes n'ont pas le droit de suivre un convoi car les sanglots sont jugés comme hystériques et elles dérangent. Elle donne aussi comme exemple les tableaux de la descente de la croix du Christ, dans laquelle Marie ne sanglote pas. Et dans aucune représentation, Marie est représentée comme sanglotée.
Alors que c'est une maman qui voit son enfant mourir. Mmh. Et ça va loin, cette représentation. Ça dérange la société, c'est ce que vous dites. Hein. Mmh. C'est ce qu'elle dit, l'auteur.
Oui.
Vous êtes d'accord avec ça,
Sophia? Est-ce que vous êtes d'accord?
Que les sanglots dérangent la société? Ça, pour moi, non. Enfin, ça ne devrait pas déranger parce que c'est une forme d'expression du corps et de la personne. C'est une forme de libération, disons. C'est quand on n'arrive pas à exprimer quelque chose par les paroles, par le langage, ben c'est le corps qui s'exprime après et ça permet de relâcher et d'exprimer.
D'ailleurs, je crois que dans le bouquin, dans le livre, il y a un bon rapport à l'expression du corps. Alors, je ne sais pas, la danse exprime quelque chose, jouer au foot exprime quelque chose, jouer au rugby exprime quelque chose. Sangloter, ça exprimerait quoi selon l'auteur? Qu'est-ce qu'elle dit de ça, sur le corps? J'ai l'impression qu'elle en parle beaucoup.
Oui, parce qu'elle dit que du coup, le sanglot, il vient couper le logos, donc le discours rationnel et la parole. Et donc, l'expression passerait par le corps, ça serait une expression de la douleur, mais aussi une libération. Par exemple, la gorge pourrait se nouer et la respiration aussi peut se bloquer.
Donc, ce serait le relais de ce qu'on peut dire.
Oui.
Donc, finalement, une sorte de catharsis, de purge d'émotions. Est-ce qu'on se sent mieux quand on sanglote après à le dire ou pas?
Pas forcément, non. Mais de mon avis personnel, je pense que oui, on doit mieux se sentir parce que en fait, on se libère de tout ce qui nous pèse, disons, et on le libère en s'exprimant, en sanglotant.
La théorie du féminisme, elle est féministe, d'après ce qu'elle dit sur la quatrième de couverture. Quel regard elle porte sur, du coup, les sanglots, la femme, non, elle dit, et l'homme? Est-ce qu'elle dit que les hommes, en fait, est-ce que c'est uniquement les femmes qui sanglotent?
Non, elle dit que ce n'est pas uniquement les femmes qui sanglotent. Cependant, elle ne s'attarde pas trop sur la question de l'homme, elle en parle, mais c'est vraiment centré sur le fait que les femmes sanglotent, ce que c'est un sanglot et à quel point ça dérange dans la société.
Avant de lire ce livre, vous aviez eu cette idée du sanglot basé sur les femmes et qui dérange la société. Est-ce que vous avez déjà dit, hein, tiens, vous parliez tout à l'heure de Marie qui est au pied de la croix et qui regarde sans trop d'expression du visage. Ce livre vous a permis de voir ça, en fait, de dire, mais oui, en fait, on essaie de gommer.
Oui, parce qu'en fait, à l'origine, on pense qu'un sanglot, c'est juste un état d'âme qui nous traverse sans s'attarder plus sur la question. Alors qu'en fait, un sanglot, ça a une histoire énorme, une histoire cachée, notamment par rapport aux femmes. Et ce livre permet justement de les découvrir et de s'en rendre compte.
C'est quoi cette histoire cachée ?
C'est justement le fait qu'ils sont jugés comme hystériques et qui dérangent la société et que les femmes ne devraient pas sangloter. Et que aussi... les sanglots pourraient être vus comme un appel à la consolation et dans lesquels on pourrait en douter.
En fait, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est comme si, après on ne va pas se le cacher, l'histoire cachée des femmes, c'est qu'elles sont cachées, ou elles ont été cachées. Donc en effet, l'espace public, l'espace du pouvoir, l'espace des affaires humaines n'était pas, hein, on le sait, on l'a vu longtemps, donné aux femmes. Donc les femmes, elles sont recluses dans l'espace privé et domestique, et donc en effet... elles sont comme les hommes, elles ont de l'énergie à revendre. Et donc, ces frustrations répétées peuvent être aussi l'espace des sanglots, d'où cette mise en cause des sanglots. Peut-être que si on refaisait l'histoire, si on avait laissé plus les femmes avoir un champ d'action plus étendu, elles sangloteraient moins, elles agiraient plus. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Mais ceci dit, la notion d'hystérie, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça renvoie à l'utérus, sauf qu'on sait depuis maintenant... Enfin, les analyses ont montré qu'il y avait des hommes hystériques, en fait. Hein. Ce n'est pas une question d'utérus. Donc, c'est des comportements, en fait, qui sont la résultante d'une oppression des femmes, en fait. Donc, peut-être, il faudrait moins sangloter et davantage agir. Et on verra peut-être davantage d'hommes sangloter, parce qu'ils seront peut-être dessaisis de leur champ d'action.
Alors, est-ce qu'elle parle des livres à l'eau de rose ou des séries où les femmes regardent ça avec... délectation et pleure quand il y a une séparation, ou il y a ce côté aussi féminin qui fait que vous êtes peut-être plus sensible, je ne sais pas. Est-ce qu'elle le dit dans le livre ?
Elle ne parle pas directement de ça, mais lorsqu'elle évoque que les sanglots peuvent être de cause maternelle, menstruelle, elle dit aussi qu'ils peuvent être cause amoureux ou
d'autres expériences.
Oui, d'autres expériences.
Mmh. Oui, elle n'en parle pas directement, mais je suis d'accord.
Est-ce que vous avez un passage à nous lire qui nous donnerait peut-être envie ou pas de lire le livre ?
Moi, j'ai un passage vers le début du livre. Ce qui m'a fait plonger dedans et ce qui m'a fait apprécier un peu le début, c'est là où elle explique ce que sont les sanglots. Donc, à la page 11, elle dit « Les sanglots font mal, surgissant à l'occasion d'une souffrance physique ou morale. Ils sont douloureux en eux-mêmes. La forme expressive se confond avec le contenu. La gorge se noue. Un nœud coulant se referme sur le larynx, ou à l'inverse, la pression semble venir de l'intérieur. Quelque chose enfle, parfois extrêmement rapide, et puis les sanglots nous menacent de suffocation lorsqu'ils se succèdent en rafale, ou si nous persistons à essayer de former des mots. Contraction pénible, ils chaotisent le corps entier. »
Chaotisent le corps entier. Donc, belle expression.
Est-ce qu'elle dit dans le livre que les sanglots sont réservés seulement aux hommes, enfin à l'être humain? Est-ce que les animaux pleurent ou sanglotent? Est-ce qu'elle en parle? Et si c'est humain, donc, est-ce qu'elle dit aussi que les hommes peuvent sangloter? Est-ce qu'il y a aussi cette théorie ou cette éducation qu'on disait les hommes ne pleurent pas? Un enfant, quand il tombe par terre et qu'il se met à pleurer, là, un petit, lui ne sait pas si le garçon ou fille, il pleure. Ou n'importe quel enfant qui tombe. Et souvent, on dit, mais t'es un garçon, tu ne pleures pas. Est-ce qu'elle en parle de ça?
Elle ne parle pas forcément de ça, mais on peut penser que de nos jours encore, on pense que les hommes n'ont pas le droit de sangloter parce qu'ils sont dits plus forts que nous. Donc, ils n'auraient pas le droit de pleurer, de se laisser aller, de cette libération des sanglots. Néanmoins, moi, je pense que homme ou femme aurait le droit de sangloter parce qu'au final, on peut souffrir tous les deux de la même façon.
Après, ce que vous disiez tout à l'heure sur la consolation, en fait, c'est un appel à la consolation.
C'est intéressant, ça voudrait dire que, bon, un petit peu comme dans les contes de fées, les femmes ont besoin d'être consolées, sauvées, et c'est peut-être ce stéréotype-là qu'elle essaie de déconstruire, non, je ne sais pas. Oui, non, dans le livre, elle ne déconstruit pas forcément ça.
Si, un peu. En fait, c'est dans l'introduction qu'elle le dit, que en fait, dans une partie qui s'appelle « Les sanglots et leurs spectateurs », elle dit que c'est les spectateurs qui peuvent voir les sanglots comme un appel à la consolation, et quelque chose qui peut être fait exprès, et donc ça pourrait mettre...
conforter peut-être les femmes.
On pourrait venir à douter de la sincérité des sanglots.
Ah. On peut dire qu'on peut en jouer, que peut-être certaines personnes pourraient jouer de ça pour attirer des faveurs ou amadouer quelqu'un à travers les sanglots.
Sous-entendu du comportement des femmes qui feraient ça pour justement attirer l'attention et donc qui devraient être cause de doute pour les autres.
Ah, c'est intéressant.
Est-ce qu'on arrive à... On sanglote, le sanglot arrive à un moment où on n'arrive plus à gérer l'émotion et là ça devient un peu... Voilà, le point ultime où on n'arrive plus à gérer et hop, on se met à pleurer. Est-ce qu'elle explique peut-être ça?
Oui, dans un passage, elle dit « La puissance disruptive du sanglot provient encore du fait qu'il est un spasme. Je fonds en larmes, mais j'éclate en sanglot, dit-on en français. » Je trouve que ce passage, il reflète bien ça parce qu'elle fait une différence entre les larmes et les sanglots. Les larmes, c'est plus une liquéfaction du corps, tandis que les sanglots, c'est quelque chose qui est bruyant, qui est une explosion. Ça montre que les sanglots, ils vont venir aussi couper donc, le logos, comme je l'ai dit précédemment. Et donc, ça va être coupé aussi à la pensée. Donc, c'est le corps qui va prendre le relais de l'expressivité.
Et par rapport à vos cours de philosophie, puisqu'on vous a donné ce livre en terminale, qu'est-ce que vous avez pu y retenir, ce que vous avez pu apprendre dans l'année? Est-ce qu'il y a un auteur, une citation, quelque chose que vous avez vu dans l'année?
Mais finalement, quels thèmes, sur lesquels thèmes, ce qu'on disait tout à l'heure, quels sont les thèmes qui pourraient être accrochés finalement?
Le langage, surtout, parce que ça, c'est le langage du corps, en fait, ici, qui est mis en jeu. Sur l'inconscient aussi, parce que des fois, on peut sangloter inconsciemment sans se rendre compte. Après, en philo-spécialité, on pourrait le rattacher à la sensibilité et aux métamorphoses du moi.
Et pourquoi les métamorphoses du moi?
Peut-être parce qu'à travers, à travers les sanglots, on peut se trouver, en fait, on peut se retrouver qui on est réellement et trouver le moi, en fait, finalement.
Ou se transformer.
Ou se transformer.
Ok. Donc, vous voteriez pour ce livre? Est-ce qu'il est bien écrit dans la forme? Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Moi, je voterais pour ce livre malgré le fait qu'il soit un peu difficile à lire, dans le sens où elle utilise un vocabulaire qui est assez complexe. Même, par exemple, il m'a fallu relire la page une ou deux fois pour la comprendre. De plus, elle insère beaucoup de références d'auteurs célèbres ou pas. Et elle passe des fois plusieurs paragraphes sur cette thèse-là pour appuyer la sienne. Et aimer les thèses d'auteurs en confrontation, ce qui fait que c'est assez long.
Et Sophia, vous trouvez qu'il est bien écrit dans la forme?
Alors, dans la forme, il est bien écrit. Moi, je trouve que ça va, il n'est pas trop difficile, mais pas trop simple non plus. Moi, je pense qu'en fait, il faut avoir une petite culture en philosophie avant de le lire, parce que si on lit ça comme premier livre de philosophie, je pense qu'on risque d'être un peu perdu, étant donné qu'elle y insère aussi beaucoup de références philosophiques dedans. Et comme disait Dina, des passages, oui, sont très longs quand elle y insère, sont très longs et parfois, ce n'est pas très, très utile de le faire aussi long, je trouve.
Ok.
On pourrait un peu raccourcir un petit peu. Il y a des longueurs.
Oui, un peu.
C'est un peu le reproche que vous pourriez faire.
Oui.
Mais c'est bien aussi de pouvoir reprocher à un chercheur, professeur de philosophie, son écrit et son livre. Estelle Ferrares, donc une philosophie... des sanglots, vous en retiendrez quelque chose quand même? C'est quelque chose qui pour le futur, quelque chose qui vous a quand même marqué, qui va vous marquer, qui...
Oui, je pense, notamment dans le passage que j'ai lu, donc je fonds en larmes et j'éclate en sanglots. Donc, comme je l'ai dit précédemment, ça montre bien la puissance des sanglots, mais on ne s'en rendait même pas compte. Et même en français, c'est quelque chose qui est très marqué dans les mots et dans la différence des mots. Donc oui, ça va.
Ben moi, vous m'avez appris quelque chose. C'est vrai que je ne regarderai plus les tableaux comme avant, où effectivement, on a gommé. J'avais jamais fait attention à ça, qu'on a gommé les sentiments. Et effectivement, une maman qui perd son fils, on peut imaginer que Marie n'était pas juste spectatrice de voir son fils se faire crucifier. Et donc, effectivement, on a gommé ça. Et oui, mais oui, on m'avait appris quelque chose. On ne verra pas les choses différemment. Et on a essayé, effectivement, pendant quelques années, de gommer ça. C'est peut-être une force aussi hein, de pouvoir exprimer et de ne pas se bloquer à ne pas pleurer ou lorsque la douleur est trop ou lorsque l'envie est trop compliquée et de pouvoir se laisser aller à pleurer, ça peut être aussi intéressant. On se sent mieux après.
Oui.
On se sent mieux après. Est-ce qu'on se sent mieux après être passé du coup à cet exercice?
Pas certaine.
Allez, merci beaucoup à toutes les deux, à Sophia et puis à Dina. Voilà, la dernière partie dans cette émission. Alors, Madame Marie Charignon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette troisième émission, ce troisième opus sur ce grand concours, ce prix lycéen du livre de philosophie? Vous êtes fière de vos élèves?
Alors, je suis fière de tous ceux qui ont aidé à ce projet, notamment Radio Présence, l'accompagnatrice Madame Mouisset, qui nous achète les livres chaque année au centre de documentation. Ça donne envie de faire une quatrième édition.
Hein. Et un souvenir peut-être. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de vous exprimer? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a angoissé? Est-ce qu'hier soir vous étiez angoissé ou pas?
Pas hier soir, mais tout à l'heure.
Tout à l'heure. Pas hier soir, mais tout à l'heure. Eh bien, on va passer au vote. Donc, on va commencer par le premier livre qui a été Contre la culture du clash, débat d'idées et de la démocratie d'Antoine Vuille. Donc, ce livre-là. Alors, qui c'est qui vote pour? Alors, vous levez la main. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour le premier.
Alors, on va peut-être voter aussi dans le sens que c'est l'idée que ça nous donne envie de lire le livre. Alors, moi, je ne voterai pas pour celui-là.
D'accord.
Pas encore.
Le second qu'on a vu, donc, 5 apparitions du ciel étoilé, Jean-Marc Mouilly, j'espère que j'ai dit bien son nom, Kant et le sens de l'existence, paru sur les belles lettres, c'est un essai. Voilà le livre qui vote pour.
Ah ouais.
3. D'accord. Ethan, vous votez pour?
Oui, même si je n'ai pas aimé le livre, je pense que c'est
mais vous votez pour. Les pleureuses, les sanglots, Estelle Ferrares, une philosophie des sanglots, paru à la bibliothèque Rivage. Voilà le livre. Alors là, qui vote pour? 1, 2, 3, 4. 4, eh bien, écoutez, je pense que vous allez pouvoir donc envoyer au prix lycéen du livre de philosophie donc le choix de. Je pensais que ça serait. Oui, je pensais que celui-là remporterait plus de voix, puisque c'est très d'actualité. Le livre était plus facile à lire. On parle d'un sujet effectivement que vous connaissez tous, les réseaux sociaux, la façon dont aujourd'hui on s'exprime dessus. Mais non, je suis surpris quand même que les sanglots arrivent à avoir 4 voix. Donc, celui-là contre la culture du clash, débat d'idées et démocratie, donc c'est celui qui gagne. En seconde, on vient une philosophie des sanglots, et en dernier, donc 5 apparitions. Je pensais qu'il ferait peut-être beaucoup moins, voire même pas de vote du tout. Mais non, il en a quand même fait 3, comme quoi, on peut être surpris.
Aimer la complexité.
Il faut aimer la complexité. Voilà le mot de la fin. Un grand merci à tous, parce que je sais que cet exercice n'est pas facile. Un grand merci à certains qui ne sont pas venus. Je me tourne vers eux, vers elles aussi. Tant pis, mais vous êtes là, c'est très
soutenu.
Bien. Un grand merci d'être venu, et puis à l'année prochaine.
Merci et à bientôt.